Bonsoir et bienvenue sur La Courte Échelle, comme tous les dimanches soirs à 19h30. Donc l'émission anticarcérale pour parler de tous les lieux d'enfermement. Ce soir, je suis tout seul à l'antenne. Donc contrairement à d'habitude, enfin, vous pouvez essayer d'appeler, mais je vais peut-être paniquer, je sais pas ce que je vais faire. Mais si jamais vous voulez essayer d'appeler quand même, c'est 04 91 08 28 10, le numéro pour appeler en direct pendant les émissions. 04 91 08 28 10, mais voilà, ce soir pas de garantie qu'il y ait de réponse au téléphone. Mais sinon, comme d'habitude, on peut aussi nous écrire des lettres à l'adresse Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Je répète, Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Ou même, on peut aussi nous écrire par mail à l'adresse la-courte-échelle@riseup.net. Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4, émission La Courte Échelle, comme tous les dimanches soirs à 19h30. Du coup, ce soir, on va pas faire une émission hyper ambitieuse. On va se contenter de... Enfin, je vais me contenter de vous passer un podcast réalisé par... des potes, enfin sur l'enfermement d'une pote, enfin la cavale puis l'enfermement. Donc en fait c'est un podcast qui est disponible sur le site Mars Info. Le titre de l'article sur Marseille Info Autonome, c'est podcast un récit de cavale et d'enfermement. Et du coup on peut avoir accès aux fichiers audio depuis cet endroit là, depuis ce site. Et on va vous passer, je vais vous passer les enregistrements maintenant. Et donc le premier épisode parle de la partie cavale, le deuxième épisode parle de la partie enfermement, et je donne pas plus de contexte puisque je pense que les audios le font mieux que moi. Voilà, très bonne écoute.
Je m'appelle Carla, j'ai 34 ans et le 7 février 2019 j'ai fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Italie qui n'a pas pu être exécuté parce que je me trouvais à ce moment-là en France. Ce mandat d'arrêt intervenait dans le cadre d'une opération dite opération Scintilla, qui devait mener à l'arrestation donc de 7 personnes, qui a mené en fait à l'arrestation de 6 personnes à ce moment-là, pour des luttes contre les centres de rétention en Italie dans les années 2015, disons, à 2020. Cette opération avait comme chef d'accusation principal celui d'association de malfaiteurs à visée subversive, qui est un outil répressif qui est plutôt utilisé souvent en Italie ces dernières années, et des petites variations en fonction des personnes. Il y avait des personnes qui avaient des délits d'incitation, d'autres personnes qui avaient des délits un peu plus spécifiques, par exemple le dépôt d'un engin incendiaire devant des distributeurs de la poste italienne. Pourquoi la poste? Parce qu'elle participe aux expulsions de sans-papiers avec une compagnie aérienne privée qui s'appelle Mistral Air. Et donc, moi et deux autres personnes, on était en particulier accusés de ce dépôt d'engins incendiaires. Il s'agit de deux épisodes pendant lesquels les engins incendiaires, en l'occurrence, n'ont pas brûlé. Donc, ils ont été retrouvés tels quels devant les distributeurs automatiques de billets. Quand cette opération était déclenchée en Italie, je me trouvais à Paris et j'ai appris au moyen d'un coup de téléphone que je faisais partie de la liste des 7 personnes qui auraient dû être arrêtées ce matin-là. Au début, j'y croyais pas du tout. Je me disais, c'est pas possible, il y a une erreur. C'est difficile d'y croire, enfin, voilà. Et puis, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Au début, je pense que j'ai pas vraiment réaliser complètement ni combien de temps ça allait durer, ni l'ampleur que ça allait prendre dans ma vie. C'est quand même une grosse information d'un coup, puis ça avait l'air d'être quand même une grosse opération. Donc j'ai eu du mal dans un premier coup à me rendre compte vraiment de ce que ça allait vouloir dire sur ma vie en général. Et puis aussi, ce qui était en train de se passer, c'était important. Ils étaient en train aussi d'expulser un lieu qui était très important pour moi en Italie. Ça prenait au début toute la place. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup pensé tout de suite à moi et à ce que j'allais faire. J'ai mis un petit peu de temps, quelques semaines, à me faire à l'idée qu'il allait falloir que je vive en conséquence de cette nouvelle. Et puis aussi, c'est très difficile de savoir comment réagir à ce genre de situation, parce qu'en fait, on ne sait pas. Ça reste, pendant moi, toute la cavale, j'ai jamais su si j'étais... Ah, si, il y a eu des moments où j'ai su. Mais pendant très longtemps, j'ai pas su du tout si j'étais recherchée ou pas, de quelle manière, quel était, du coup, le niveau de sécurité qu'il fallait que j'adopte pour réussir à échapper au contrôle. Du coup, au début, on improvise un peu avec des idées qu'on doit se faire toute seule, quoi. De comment est-ce que c'est échapper au contrôle, comment est-ce que c'est échapper à des éventuelles recherches. Il se trouve que le mandat d'arrêt européen a été déclenché en octobre, donc ça a mis 8 ou 9 mois, ouais, avant que le mandat d'arrêt européen soit demandé par l'Italie. Le mandat d'arrêt européen, c'est une formalité maintenant. Il y a, voilà, l'Europe, ça sert à ça. Un juge italien appelle un juge français, lui dit, il y a telle personne qu'on voudrait arrêter, est-ce que vous voulez bien signer ce papier pour que vous le recherchiez vous aussi? Et ça y est, c'est fait, c'est très rapide. Ce qui est différent, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend en charge ou pas des recherches? Est-ce que vraiment activement la personne va être recherché par la police des deux États. Et ça, moi, très vite, je suis partie du principe que le mandat d'arrêt européen allait exister, mais j'avais aucune idée de à quel point vraiment j'allais être recherchée. D'autant que il faut quand même dire que moi, je me disais, là, je suis pas en train d'être recherchée pour une question de peine à exécuter, mais ce serait une arrestation préventive pour un procès qui a pas eu lieu, etc. Donc, il y a eu des moments où je me disais que c'était quand même peu probable. Bon, c'était peu probable, mais par ailleurs, je me disais quand même que, voilà, je pense que j'ai essayé de maintenir un niveau de sécurité assez haut. Pour plusieurs raisons, aussi parce que pour moi, c'était pas du tout évident, le fait d'être en cavale. Moi, j'ai eu l'impression de faire un non-choix depuis le début. Il se trouve que juste, j'étais pas là. Je suis pas partie en courant au moment où j'ai su qu'on allait m'arrêter. J'étais juste pas là quand j'ai reçu la nouvelle. Effectivement, j'ai fait le choix de pas aller le lendemain à Turin, à toquer à la porte du commissariat pour me rendre. Mais même ça, c'était pas évident, en fait. C'était possible, en fait, pour moi, de retourner en Italie et de me présenter et à la police pour me rendre. Aussi, il y a plein de raisons pour ça, parce que les procès en Italie, c'est très long. Là, l'arrestation, c'était en 2019, maintenant on est presque en 2023 et le procès n'est pas terminé. Du coup, j'avais un petit peu du mal à m'imaginer que ça puisse durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'était très très difficile pour moi de me projeter dans une très longue durée. Du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est évidemment de pas de rester à Paris, parce que c'est ma ville d'origine, ça aurait été probablement le premier endroit où il serait venu me chercher, en tout cas, c'est ce que je me disais. Voilà, effectivement, quand on se rend compte qu'on est potentiellement recherché par la police, on sait ce qu'on risque. Moi, je savais ce que je risquais. Je savais que dans l'absolu, j'allais être arrêtée. Si ça se passait, si j'étais arrêtée, j'allais me retrouver en prison. Mais il y avait une autre chose qui était très importante pour moi, qui était de pas mettre en danger les personnes qui éventuellement m'aidaient. Et ça aussi fait partie des choses qui ont été un peu centrales sur la façon dont je me suis organisée d'une manière générale. Parce que c'est vrai que, voilà, en théorie, ma famille peut pas être poursuivie pour le fait de me donner un coup de main, d'avoir des relations avec moi pendant que je suis recherchée par la police, mais en revanche, c'est pas le cas des autres personnes qui font pas partie de ma famille. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui ont été importantes pour moi. C'était effectivement ne pas être retrouvée d'un côté et ne pas faire prendre de risques aux personnes qui me donnaient des coups de main d'un autre côté. Comment j'ai vécu, c'est très compliqué d'être loin, quoi. D'être loin des gens qui sont importants. Après, je pense qu'on est tous différents sur ces trucs. Il y a des personnes qui sont peut-être super aventureuses, qui sont très contentes d'aller faire plein d'expériences qu'elles font pas dans la vie ou dans la vie de tous les jours parce qu'elles sont prises par leur quotidien, etc. Je pense que, je sais pas, ça m'est arrivé de parler avec d'autres personnes qui ont fait le même type d'expérience et qui l'ont vécu beaucoup mieux que moi. Voilà, je pense qu'on est tous différents sur ces plans-là. Moi, je pense que je suis plutôt une personne qui a besoin de racines et d'être... de sentir que je suis ancrée dans les endroits où je me trouve. Effectivement, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué de me sentir loin, c'était compliqué de pas être dans le quotidien des personnes qui étaient importantes pour moi, c'était compliqué de pas pouvoir mener la vie que je me suis choisie. Et aussi, il y a des choses qui ont été très dures. Je pense qu'il y a une espèce de tabou autour de la cavale qui fait qu'on sait pas comment parler des personnes qui sont pas là. Et moi, je me suis sentie un peu devenir invisible et arrêter d'exister à un moment donné. Et ça a été très très dur parce que je pense que c'était pas du tout une volonté de la part de mes camarades et qu'eux-mêmes, à un moment donné, il y a eu la volonté de contrebalancer ce qui avait été les premiers mois de silence total en essayant justement de faire un peu des initiatives qui parlaient de ce que c'était que la cavale, etc. et de faire exister mon absence. Mais c'est vrai que moi, dans un premier temps, j'avais juste l'impression de plus exister. C'était compliqué parce que c'est vrai que bah, quand tu vas en prison, tu sais, tu vas recevoir des lettres, tu vas recevoir des signes, des gestes de solidarité d'une manière ou d'une autre. Bah, en cavale, t'as la solidarité des personnes qui te sont proches dans le quotidien et qui est précieuse. Mais c'est vrai qu'on dit plus ton nom, quoi. La cavale, c'est pas romantique. La cavale, c'est pas romantique. En tout cas, ça l'a pas été pour moi. Après, voilà, je suis une personne qui l'a vécu d'une manière très particulière, à ma manière. Je sais bien qu'il y a des personnes pour qui c'est différent. Et aussi, moi, je suis restée dans mon pays. Pas le pays dans lequel j'étais recherchée, mais je suis restée dans mon pays. Je pense que peut-être qu'effectivement, des personnes qui vont sur un autre continent, qui arrivent à voyager pendant un peu de temps, à vivre des choses complètement différentes, qui se sentent peut-être plus libres, parce que sur un autre continent, t'es plus libre que dans le pays où t'es potentiellement recherchée. Peut-être que là, ça devient un peu plus romantique, j'en sais rien. Peut-être. Moi, c'était pas comme ça. Moi, c'était pas comme ça, non, j'ai pas trouvé ça romantique. Moi, j'étais pas libre, quoi. Et en même temps, voilà, hein, je pensais, souvent il y avait des choses qui me faisaient tenir, je pensais aux autres personnes qui, pendant que moi j'étais relativement libre, étaient en prison pour la même histoire que moi, et je me disais, ah, bon bah profite quoi, toi tu sens le soleil sous ta peau, tu peux faire toute une série de choses qu'ils peuvent pas faire, et du coup ça me donnait un petit peu de force, ce truc-là, de temps en temps, mais c'est vrai, j'avais besoin de me le rappeler, quoi. Donc j'ai pris la décision d'aller dans une autre ville. La question que je me posais, c'est en fait un peu, du coup, il y a plusieurs possibilités où tu choisis d'aller dans un tout petit village et tu te caches et tu vis un peu recluse pendant le temps où ça dure en essayant d'avoir très très peu de rapport avec le monde qui t'a appartenu jusqu'à présent. Moi, ça me faisait un peu peur parce que j'avais très peur de l'isolement, voilà. Et du coup, j'ai effectivement choisi d'aller dans une ville où je me suis dit que probablement j'allais être un peu perdue dans la masse et où j'allais pouvoir avoir des relations humaines à peu près acceptables. Par contre, effectivement, ça voulait dire changer de prénom, essayer de pas trop dire où j'habitais, d'en parler le moins possible. Ça veut dire que toutes les choses que beaucoup de personnes, qui font partie du quotidien de beaucoup de personnes, tu peux pas les faire. Donc effectivement, travailler, ça devient une chose un petit peu compliquée, ou bien tu travailles au noir. Tout ce qui est les déplacements que t'es censé faire avec des cartes ou sans cartes, ou en tout cas maintenant, je me rendais pas compte à l'époque, mais t'es censé mettre ton nom à chaque fois que tu prends le TGV sur le billet. Alors est-ce que ça veut dire que si j'ai pas mes papiers et que je prends mon billet, je me retrouve dans une situation où c'est risqué de me faire arrêter ou pas? J'étais tout le temps dans un espèce de truc de faire des calculs comme ça, de à quel moment je prends un risque, à quel moment j'en prends pas, qu'est-ce que c'est un risque acceptable ou quand est-ce que j'exagère. Ne pas avoir de téléphone. Dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. Ça fait bizarre. Je pense qu'on n'a plus trop l'habitude. Donc ça, ne pas avoir de téléphone, c'est un choix qu'on fait pour soi, mais que les autres font pas très souvent. Par exemple, ça m'est arrivé pas mal de temps d'attendre à des rendez-vous parce que les gens ont l'habitude maintenant d'envoyer plusieurs textos pour se dire « Alors, on se voit bien à 4 heures, c'est ça ?» Et moi, à 4 heures, j'attendais. Il y avait personne parce que la personne imaginait qu'on allait devoir se reconfirmer. Bon, t'imposes un peu ton rythme de vie aussi aux autres, quoi. Quelquefois, c'est bizarre. Une des choses qui était très compliquée pour moi pendant la cavale, d'une manière générale, c'était un peu ce regard des autres sur la façon dont je faisais les choses. où souvent c'était soit trop, soit pas assez. Très souvent, les gens pensaient que j'en faisais trop. Bon, c'est vrai que j'ai fait des gros efforts pour cloisonner, pour ne jamais parler de ma vie antérieure, pour jamais parler de moi. C'était très bizarre d'ailleurs, parce que quand je rencontrais des gens que je connaissais pas, je parlais jamais de moi, je posais des questions, je parlais jamais de moi. Je pense que je devais être une personne très étrange. Je me suis pas inventé une légende. Je me suis pas inventé un personnage. J'ai trouvé ça trop compliqué. Du coup, j'ai juste très très peu parlé de moi d'une manière générale. Les gens qui me connaissaient trouvaient que j'en faisais trop, quelquefois, souvent. Je sentais leur regard négatif sur la façon dont je faisais les choses. Bon, pas les très proches, hein. Mais certaines personnes, oui, je me rendais compte qu'ils trouvaient que j'exagérais, que peut-être que personne n'allait jamais venir m'arrêter, que c'était pas la peine d'en faire autant, quoi. Bah, sauf que justement, quand il y a eu l'hospitalisation de ce proche, c'est un peu le contraire qui a été révélé. C'est-à-dire qu'au bout de 4 jours où cette personne était à l'hôpital, les flics ont débarqué. Moi, il se trouve que j'ai rendu visite à cette personne à l'hôpital. Ça aurait été très compliqué pour moi de pas le faire. Et les flics ont débarqué aussi chez mes deux parents pour me chercher, notamment avec des scènes dans la maison de ma mère. Ils ont quand même sorti le pistolet avant de descendre dans la cave. Ma mère était complètement choquée. C'est vrai que la cave était un peu obscure, mais bon, drôle d'idée quand même. Ça, et quelques temps après, ils ont aussi fait une petite descente dans un squat, effectivement, à Paris, et embarqué une personne qui ne me ressemble absolument pas. Relâché après très peu de temps, parce que c'est... De toute évidence, c'était pas moi. Ça a rendu les choses un peu plus concrètes, quoi. Je pense que notamment pour ma famille, qui, quand mon proche a été hospitalisé, disait au téléphone « Oui, oui, Carla est là », ça a rendu des choses très, très concrètes. Et je pense qu'ils n'ont jamais plus dit mon nom au téléphone. Voilà, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais effectivement activement recherchée. C'est plein de petites choses, en fait, le fait de faire attention au quotidien, à pas se faire arrêter. Mais c'est plein de petites choses, donc je pense qu'il y en a qui font partie de l'imaginaire et qui sont difficiles à mesurer réellement. Mais en fait, c'est ça qu'on a. Moi, j'avais que ça. C'est pas palpable à aucun moment. Du coup, on est obligé de se raccrocher à plein de petits détails que quelquefois même on fantasme un peu, parce que c'est difficile d'avoir des éléments concrets. J'écoutais des émissions à la radio qui parlaient du fait que, je crois que c'est en Angleterre, les flics allaient commencer à utiliser Facebook pour utiliser la reconnaissance faciale des personnes qui étaient en arrière-plan sur les photos que les gens postaient. Et là, voilà, moi, du coup, à chaque fois que je voyais des photos, des gens qui se prenaient en photo, j'étais complètement parano. J'essayais de pas d'échapper à toutes les photos. Et en fait, c'est tout le temps. Les photos, c'est tout le temps, tout le temps. T'es au bar, en face de toi, il y a des gens qui prennent des photos. Bah, en fait, tu te retrouves dessus en un clin d'œil. Je sais pas, au concert, même les concerts militants, les gens, ils prennent le public en photo. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, moi, j'étais effectivement un peu tout le temps dans une situation où je me sentais vulnérable. Il y avait ça, le fait de faire attention aux contacts téléphoniques. Et bon, à un moment donné, j'ai eu un téléphone. C'était compliqué. Je pense que j'avais genre 4 téléphones différents, 14 000 puces que je changeais en permanence. Donc alors, pour les différents contacts que je pouvais avoir, tel téléphone, c'était tel endroit, tel autre téléphone, tel autre endroit. Je pense que je me suis mélangée à un moment donné. J'ai arrêté aussi d'ailleurs. Je pense que je me suis mise en danger en mélangeant un peu à un moment donné les différents outils que j'avais. J'ai utilisé ce fantastique outil qui est Tails. Pour envoyer des mails cryptés, ça a été quand même un truc très très pratique et qui m'a un peu sauvée de l'isolement. Voilà. J'ai eu un certain nombre de soins médicaux qu'il a fallu que je réalise pendant que j'étais en cavale. Des soins de routine, hein, par exemple, d'aller chez le médecin, d'aller chez la gynéco. Et des trucs un petit peu plus compliqués. Donc je me suis cassé un os, il a fallu que j'aille à l'hôpital. Bah en fait, voilà, bonne nouvelle. C'est faisable. Je pense que, mais aussi moi, j'ai fait l'expérience que font des milliers de sans-papiers dans la vie de tous les jours, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tu te fais prêter l'attestation de sécurité sociale de quelqu'un qui est assuré, quoi. Pour le moment, on a de la chance, il n'y a pas encore de photos sur les attestations, donc c'est possible. Je me rappelle encore d'être arrivée à l'hôpital, c'était une fracture ouverte, rien de très grave. Et au début, j'avais l'impression que c'était juste ouvert et qu'il fallait juste mettre des points. Et quand la personne m'a dit « Non, non, mais c'est peut-être cassé, on va devoir aller faire une petite radio », j'ai fondu en larmes. Et donc, la personne qui était en face de moi, l'infirmier, me disait « Mais ça va aller, vous inquiétez pas, c'est rien. » Je disais « Mais vous pouvez pas comprendre !» C'était un peu voilà, l'émotion, le grand moment de drame. Mais au final, tout s'est bien passé, ouais. Donc, j'ai été opérée. J'ai pu être suivie par l'hôpital sans difficulté. Ça, effectivement, ça fait partie des choses qu'encore aujourd'hui on arrive à résoudre. Je sais pas combien de temps ça va durer. Quand j'allais chez des personnes qui étaient actives d'un point de vue militant, je me méfiais. Je me méfiais parce que je sais que la police fonctionne comme ça, quoi, qu'elle met des micros chez les gens. Donc on en retrouve quand même régulièrement. Et notamment, moi, un des éléments à charge contre moi dans ce dossier, c'était pour étayer les accusations selon lesquelles j'aurais déposé cet engin incendiaire, là. Ça aurait été une écoute dans une maison occupée à Turin, qui se trouvait dans la cuisine de la maison en question. Voilà, c'est une écoute qui est assez absurde, à laquelle on a fait dire n'importe quoi, mais n'empêche que voilà, je sais que ça existe, quoi. Donc c'est vrai que quand j'allais chez des gens, je faisais attention aussi à ça, ouais. En fait, je faisais attention, juste je me sentais en danger. Après, j'y allais quand même, je pense. Mais je me sentais en danger, ouais. En fait, ça réduisait les moments de spontanéité, quoi. Je pense que le fait de pas de me demander tout le temps si je suis dans un espace tranquille où il n'y a pas de micro, où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas des gens qui prennent des photos, etc. Le fait de me poser ces questions constamment, ça réduisait énormément les espaces de spontanéité. Du coup, j'avais besoin effectivement que de temps en temps, il y a des espaces qui soient dépourvus de tous ces éléments. C'était les moments où j'arrivais à être un peu plus tranquille et à parler de moi, oui, mais le problème, c'était pas... La question, c'est même pas seulement d'ailleurs de parler de soi, quoi. C'est vraiment de pouvoir être tranquille, de pouvoir dire, c'est pas grave s'il y a tel mot qui m'échappe à tel moment et je peux parler tranquillement sans me préoccuper de ce qui est dit, ouais. C'est vrai que ça fait partie des choses compliquées dans mon quotidien. Et après, j'ai réfléchi à des trucs à la con. Hein. Est-ce que ça vaut la peine, par exemple, de faire des faux papiers, parce que je sais que ça existe. Est-ce que ça vaut la peine de chercher comment on les fait et d'essayer de s'en procurer. J'y ai réfléchi longuement à ça. Et par exemple, je me suis dit que j'avais pas très envie de rajouter d'autres choses illégales aux choses pour lesquelles j'étais déjà recherchée. J'avais pas envie d'ajouter d'autres problèmes, quoi. Pour moi, ça a duré un an et demi. Donc j'avais de la chance au début parce que effectivement j'avais travaillé, il se trouve que j'avais travaillé un petit moment et j'avais un peu d'argent de côté. J'ai commencé à affronter la période avec un petit peu d'argent. Bah ça coûte quelquefois plus cher que la vie ordinaire, la cavale, parce que j'en sais rien si t'as l'habitude de frauder le métro ou de voilà, il y a plein de petites choses que tu peux faire dans la vie de tous les jours qui font que tu payes un peu moins cher, quoi. Et bah là, c'est pas possible. Donc, tu payes tout. Tu payes tout et du coup, ouais, ça coûte pas mal d'argent. Et du coup, bah ce petit pécule que j'avais au début, ça avait évidemment pas suffi à survivre un an et demi. Après, voilà, moi j'ai quand même reçu un petit peu de solidarité, donc qui m'a aidé effectivement à survivre. Et j'ai eu aussi quelques mauvaises nouvelles. Par exemple, au bout d'un an environ, je pense que la police qui avait commencé à me rechercher et allait gentiment toquer à la porte de la cave pour dire à cette personne, en fait, elle est pas du tout vous croyez et en fait on la recherche quoi. Et la CAF a dit « Ah, mais vous n'êtes pas du tout à l'endroit où on croit. Donc, on va vous retirer tout l'argent qu'on vous donne, mais aussi on va vous demander de nous rendre tous ceux qu'on vous a donné l'année dernière. » Donc, ça fait partie des stratégies policières, celle de te couper les possibilités de survie financière. Et aussi, j'ai réussi à travailler un petit peu à des moments. Voilà, ça fait que j'ai réussi à passer avec un petit peu d'argent l'année et demie qu'a duré cette cavale, ouais. Et du coup, moi, j'ai manifesté la volonté de vouloir me rendre au bout de quelques mois, où notamment certaines des 6 personnes qui avaient été arrêtées étaient sorties de prison, etc. J'avais l'impression que peut-être l'histoire se dégonflait un peu, et j'avais l'impression que ça allait durer moins longtemps dans l'ensemble si je me rendais que si je faisais durer ce moment de cavale. En fait, il y a des phases, des marges de négociation en plus quand on se rend. Des marges de négociation et aussi y a peut-être quand même quelques chances de pouvoir faire un peu moins de prison par exemple ou des choses comme ça. Ça s'est pas fait parce que c'était pas si simple que ça, parce que l'impression générale c'était que les marges de négociation étaient plutôt réduites. Et en fait ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a une personne de ma famille qui a eu des gros problèmes de santé juste après le moment où j'ai voulu rentrer, où je m'étais presque organisée pour le faire. J'étais un peu soulagée de pas m'être rendue, parce qu'effectivement, avoir la nouvelle de cette hospitalisation en prison, ça aurait été très très dur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai un petit peu effacé de ma mémoire toute la partie juste précédente, parce qu'effectivement, ça a été très très choquant comme moment. En mars 2020, quand il y a eu le premier confinement, j'étais encore en cavale. J'ai un peu flippé. J'ai un peu flippé parce que je me demandais comment j'allais pouvoir survivre, quoi. Et puis, ça a été un moment, je pense, où tout le monde a flippé, où tout le monde s'est demandé comment ça allait se passer. Et moi, je me rendais compte que s'il fallait sortir avec des attestations, s'il y avait des contrôles dans la rue tout le temps, etc., j'allais peut-être même pas pouvoir faire les courses. Les premiers jours, je me rendais pas compte de ce que ça allait être concrètement. C'est d'un côté, j'ai complètement flippé. Heureusement, j'ai trouvé une situation où ça s'est très bien passé. Je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait mettre le nom qu'on voulait sur les attestations et que ça changeait rien du tout. Et donc, le flip un peu de départ s'est atténué. Et par contre, le truc qui me foutait un peu les boules, c'est que je me disais, mais là, je suis en train d'être enfermée pour rien, alors que je devrais être enfermée pour quelque chose. Et du coup, je me disais, à quoi bon, quoi? Autant que, enfin, à un moment donné, je me suis dit, si ça doit durer je sais pas combien de temps, autant que ce soit décompté des mois que je devrais faire dans l'absolu. Du coup, je me suis dit, c'est parti, j'y vais, en fait, je vais en Italie, je vais me rendre. On m'en a dissuadé en me disant, mais tu te rends pas compte, c'est le pire moment pour être en prison, si tu te retrouves là-bas, ça va être horrible. Donc, j'ai encore une fois pris mon mal en patience. Mais ça m'a fait très très bizarre cette idée d'être enfermé avant l'heure et d'être enfermé à ce moment-là pour une raison qui me semblait pour rien, quoi. J'en ai profité au final de cette période, et je pense que c'est un truc un peu important à dire sur la cavale en général, et qui, moi, m'a changé les choses. Ça m'a changé la cavale et ça m'a changé la prison aussi par la suite. En fait, ça faisait quelques années que j'étais inscrite à l'université à distance, que donc je pouvais suivre tous mes cours et valider mes examens à distance. Et en fait, j'ai continué aussi bien pendant la cavale que en prison, parce que ça a fait que tout ce temps où j'étais pas là, où je pouvais pas vivre ma vie, où je pouvais pas voir les personnes importantes pour moi, faire les activités qui étaient importantes pour moi dans la vie, au moins j'ai mené à bien ce petit projet personnel. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à reprendre. Quand je pense les premiers 6 mois, c'était impossible pour moi de penser à ça. Mais à un moment donné, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai échangé sur des expériences passées de cavale, et cette personne m'a dit, pour moi, ça a été très important de ramener quelque chose à la maison, d'apprendre des nouvelles choses, et que ce soit pas complètement perdu. Et là, je me suis dit, mais en fait, oui, enfin, je peux pas me permettre que ce temps soit complètement perdu, que ce soit du temps blanc dans mon existence et c'est tout. Et du coup, je me suis concentrée pour reprendre l'université et passer mes examens. Et bon, ça, c'est quelque chose dont je suis très très contente. J'ai été arrêtée donc le 26 juillet 2020 à Saint-Étienne, où je me trouvais parce que j'avais rendu visite à des amis. À ce moment-là, je savais que l'étau se resserrait. Il se trouve qu'il y avait une personne qui devait me rendre visite, qui avait été suivie de manière assez lourde, notamment aussi sur un passage de frontière entre l'Italie et la France, avec des moyens un peu impressionnants, donc plusieurs voitures. Lui, il a aussi bien pris le bus que le vélo, il a été suivi dans les différentes situations, etc. Donc voilà, il m'avait communiqué après. Je savais que la surveillance se resserrait un peu, et je savais que j'allais devoir changer des trucs. Je savais pas encore quoi, mais et de quelle manière, j'étais peut-être en train d'y réfléchir à ce moment-là. La situation était en train de changer, quoi. C'est drôle parce que cet après-midi-là, du coup, on avait fait un pique-nique au bord d'un lac. Et à un moment donné, il y a la police qui est passée en barque, en bateau, devant nous. Et tout le monde a dit « Ah, mais il y a la police là-bas ». Et moi, j'ai dit « Bah, ça va, la police existe. On sait. » Voilà, dans ma vie, j'avais arrêté de trembler à chaque fois que je voyais un policier. Je savais bien que c'était pas parce que ma simple existence suffisait pas à ce que... Enfin, ils avaient pas des radars si puissants pour savoir qu'il fallait qu'ils viennent me contrôler, quoi. Du coup, effectivement, pour moi, c'était devenu un truc un peu anecdotique, la simple présence de la police. Du coup, moi, j'ai pas fait attention. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont dit après qu'ils avaient un peu stressé plus que ce que je m'étais imaginé. Et voilà, et à la fin du pique-nique, on a pris les voitures et on est retourné dans la maison de ses amis. Et sauf que on a garé la voiture. Je me rappelle encore de cet ami qui conduisait, qui gare la voiture et qui dit « Mais c'est quoi ça ?» Et on voit un gros 4x4. Moi, je me dis, c'est rien, c'est juste des voisins. Je sors de la voiture et là, effectivement, plusieurs 4x4 qui s'arrêtent et des flics qui descendent de partout. Je crois qu'il y en avait qui étaient cagoulés, d'autres qui l'étaient pas, et qui avaient des grosses mitraillettes ou des gros fusils à la main et qui les pointent tous vers moi et dites votre nom, dites votre nom. Ok, j'ai dit mon nom. Ben voilà, 30 secondes plus tard, je me retrouvais dans la voiture, menottée, avec un pull sur la tête, et un policier qui s'asseyait à côté de moi et qui dit « Ah, vous voyez les violences policières, c'est pas vrai. Il m'avait pas tapé. Il était trop content, il m'avait pas tapé. Donc voilà, les violences policières, c'est pas vrai. Hein. » C'était la BRI et la DGSI qui m'ont arrêté. Effectivement, c'était un peu impressionnant, hein, plusieurs 4x4 comme ça, tous armés. Ils hurlaient en essayant d'éloigner les autres personnes. Je pense que ça a été un moment un peu choquant. Il y avait un bébé qui avait même pas un an, qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. J'ai été amenée dans une antenne du commissariat de Saint-Étienne. Moi, je sais pas lequel, parce que j'avais le pull sur la tête. Ils ont pas voulu... Enfin, mon pull sur la tête, ils voulaient pas que je voie. Je sais pas ce que ça aurait changé. Alors là, c'était la foire. Ils m'ont mis dans une petite pièce. Il y avait une petite vitre dans la pièce en question. Ils passaient, ils prenaient des photos de moi avec leur téléphone. Ils étaient trop contents de m'avoir arrêté. Et donc, ils m'ont dit voilà, que j'allais devoir attendre dans cette petite pièce-là. C'était pas une cellule de garde à vue, c'était une pièce qui ferme la clé, évidemment. J'allais devoir attendre l'arrivée de la SDAT. La SDAT, c'est la sous-direction antiterroriste, qui partait de Paris. Et donc, le temps d'arriver, ils allaient arriver plus tard dans la soirée pour m'interroger. Voilà, moi je me suis assise dans cette cellule et je me suis dit « Ah, c'est fini !» Parce que c'est vrai que pendant toute la cavale, j'avais l'impression que chaque jour m'éloignait un peu, chaque jour où je restais en cavale et où l'arrestation ne s'était pas produite, m'éloignait un peu du moment où j'allais enfin être libérée, quoi. Et du coup, le jour de mon arrestation, je me suis dit « Bon, bah voilà, ça y est, c'est parti. On va enfin pouvoir aller vers le moment où ça se termine. » La SDAT est arrivée. Et le lendemain, ils m'ont emmené de Saint-Étienne à Paris. En roulant, c'était un peu particulier. Donc il y avait une voiture qui ouvrait la marche et la voiture où j'étais. Ils étaient tous les trois cagoulés dans la voiture où j'étais, je sais pas, dans l'autre. Et moi, j'ai fait tout le trajet, menotté dans le dos. Enfin, je pense qu'on roulait quelque chose comme 180. Il y a eu des moments un peu bizarres où on a traversé les embouteillages de Lyon et du coup on passait entre les voitures. Donc il y avait, enfin, vraiment, ça faisait, je pense, très très bizarre, ces trois personnes cagoulées et moi, tête nue, au milieu. C'était un peu. Voilà. Donc tout le monde, comme on était dans les embouteillages, tout le monde se retournait pour regarder. Je me sentais un peu une bête de foire. J'ai été emmenée dans les locaux de la SDAT à Levallois-Perret. Ils m'ont bandé les yeux pour les derniers kilomètres et aussi pour faire les 200 premiers mètres à l'intérieur de leurs locaux. Dans les cellules de garde à vue qui sont au sous-sol, les cellules de garde à vue les plus propres que j'ai vues de ma vie. On m'a même donné le droit à une douche, ce qui est une chose complètement incroyable en garde à vue. Voilà, j'ai dormi. Et le lendemain, il y avait une audience. J'étais présentée au juge. J'ai vu mon avocat juste avant la présentation. Non, au procureur. À la procureure qui avait organisé les recherches. Qui m'a dit, on en a mis du temps à vous trouver. Et puis après, ça allait très vite. Hein. Elle a demandé mon placement en détention. J'ai été placée en détention à Fresnes, au quartier des Arrivantes. Et le lendemain, j'avais l'audience d'extradition qui était publique. J'ai pu voir ma famille et mes amis qui sont venus me saluer pendant l'audience. Moi, j'ai accepté l'extradition. Mais en fait, pour la même raison pour laquelle je me suis dit « ça y est, c'est enfin fini » quand j'ai été arrêtée. Je savais que ça allait pas durer indéfiniment toute cette histoire, qu'à un moment donné, j'allais sortir, j'étais pas condamnée à je sais pas combien de temps. Donc c'est une histoire, par exemple, très très différente de celle de Vincenzo Vecchi. Et voilà, pour moi, ça avait pas de sens d'entamer une bataille de ce genre. Ça m'allait d'arriver en Italie et que toute la procédure judiciaire commence, quoi.
D'écouter Carla qui raconte sa cavale sur un morceau de Clara Motto, Glove Affaire, Affaire de gants. Le prochain épisode sera sur son incarcération en France et en Italie. Un grand merci à Carla pour son témoignage. Merci à Rafa pour la coordination. Réalisation, Le Transmetteur.
Voilà, c'était le témoignage de Carla, comme c'est dit dans l'audio, qui du coup n'est pas fini. Comme vous venez de l'entendre, il y a une partie 2 qu'on n'aura pas le temps de passer ce soir, mais je me disais que c'est pas si grave, parce qu'en vrai, les deux sont quand même très intéressants, même si on les écoute l'un indépendamment de l'autre. Je pense qu'on passera le prochain lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup à elle pour ce témoignage qui est grave complet, qui aborde plein d'aspects. Est-ce que ça peut être la cavale? Il me semble qu'on l'avait jamais mis sur cette émission. Bah, il était temps parce qu'il est vraiment cool. Et en vrai, il fait pas mal le lien avec deux brèves qu'on a aujourd'hui. La première, toujours concernant Gino, l'antifa qui a été arrêté à Paris il y a maintenant plus. Enfin, presque un mois, puisque c'était le 10 décembre son arrestation, qui est donc on vous avait dit la semaine dernière que son audience était le 18 décembre, et elle a bien eu lieu, mais le résultat de l'audience sera le 15 janvier, donc le temps que la justice réfléchisse s'il va pouvoir rester encore un mois en détention provisoire. C'est hyper chiant, mais vraiment force à lui, bon courage, bon, depuis Fresnes. Et il nous entend pas, mais force à lui quand même, et force aux proches qui le connaissent aussi et qui sont inquiets et inquiètes pour le verdict, en espérant qu'il ne sera pas extradé vers la Hongrie. Et ça faisait pas mal le lien avec ce témoignage qui est aussi un témoignage qui parle d'extradition du coup, et même l'apôtre le dit elle-même dans l'audio, le mandat d'arrêt européen, c'est une formalité. L'Europe, ça sert à ça, effectivement. bah, ça, l'Europe, c'est aussi un espace qui permet de fluidifier la répression. Et là, c'est aussi le cas. Et on espère que ça va pas marcher. Parce qu'il y avait donc l'audience mercredi et que enfin ça débattait. Enfin bref, je pense qu'on reparlera de. On suivra encore les rebondissements de ce qui se passe pour le pote Gino. Et on espère qu'il ne sera pas extradé. Voilà. Et sinon, autre brève. Une meilleure nouvelle qui s'est passée le même jour. Je change le micro. Qui s'est passée le même jour, donc mercredi 18 aussi. Mais cette fois-ci, un autre jugement, c'était à Lyon. Il y a une personne qui a réussi à se débarrasser de ses menottes et à prendre la fuite alors qu'il devait être présenté à un juge. Donc c'était une personne sans papier qui devait passer au tribunal administratif, enfin au palais de justice des 24 colonnes à Lyon, et qui a réussi à s'enfuir de son audience. Donc ça reste une bonne nouvelle. On est content pour lui qu'il n'ait pas retourné au CRA de Lyon-Saint-Exupéry. Ça fait aussi le point avec ce témoignage de ce que ça peut être une cavale, et que même si nous on fait souvent, on parle souvent des évasions comme d'une bonne nouvelle, parce que c'est symboliquement c'est aussi un moyen de lutte, et c'est des personnes qui se laissent pas faire face à la justice. Mais on n'oublie pas que la cavale c'est pas facile, et que on adorera toujours peut-être un discours un peu romancé vis-à-vis de ça, mais qu'il faut pas oublier que, comme le montre ce témoignage, la cavale c'est difficile. Donc on souhaite bonne chance à cette personne qui a réussi à s'évader du tribunal des 24 colonnes ce mercredi. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Et je voulais quand même, peut-être, comme les fêtes approchent et que c'est souvent pas facile les fêtes quand on est enfermé, ce moment peut être particulièrement déprimant, quand même passer un gros big up à toutes les personnes dedans qui nous écoutent, et à tous les proches qui vont devoir passer leur fête avec une personne en moins. Et je vous souhaite à tous un Noël aussi bien que possible, à l'intérieur comme à l'extérieur, sachant que le 24 au soir, il y aura l'émission de Zonzon dont on a parlé la semaine dernière. Voilà, on se laisse. Très bonne à la semaine prochaine, et force à tout le monde. Bisous.